Alors, lors de nos deux derniers messages, il était question de l'assurance du salut et de la sanctification. Et nous avions dit que, en fait, la sanctification est la raison de notre assurance du salut, c'est-à-dire que lorsque je vis dans la sanctification, je suis certain d'être sauvé. Et qu'en fait, quand on est sauvé, on se sanctifie naturellement. Il faut savoir que pour Dieu, quelqu'un qui est sauvé est un saint. Je ne sais pas ce que c'est qu'un saint pour vous. Quand on dit un saint, comment est-ce que vous définissez cela? Est-ce que quelqu'un peut me, enfin, est-ce que vous pouvez nous donner votre interprétation ou votre compréhension du mot saint?
D'être au plus près de lui, dans
D'accord,
ses
quelqu'un qui
actes,
s'approche de Dieu
dans ses paroles, dans sa vie.
dans ses paroles, dans sa vie, ok?
Vraiment un saint vers Dieu,
Quelqu'un qui meurt,
qui
qui part
parle
vers
de
Dieu,
Dieu et qui pardonne et qui.
d'accord? Est-ce qu'il y a d'autres compréhensions?
Et même ce qui.
Alors, disons qu'en fait, si je pose la question, c'est parce que dans le monde, on a une certaine compréhension du mot saint. Généralement, c'est quelqu'un qui a été canonisé par le pape et qui est considéré comme parfait, quelqu'un qui a vécu une vie parfaite. Et que le pape décide par une canonisation sa sainteté. Ça, c'est la vision que les gens ont en général du saint. Mais ce n'est pas ce que la Bible dit. J'aimerais revenir sur la définition du saint selon la Bible. Ce n'est pas un homme qui désigne un autre comme saint, c'est Dieu qui décide. Dieu seul est juge et c'est lui qui va désigner celui qui est saint. Et tout simplement, dans la Bible, un saint, c'est un disciple de Jésus. Pas plus. Celui qui est né de Dieu, qui a choisi le Seigneur Jésus comme sauveur, qui est disciple du Christ, est un saint. Et parfois, les gens ont du mal à le croire, mais je vais vous donner quelques passages des Écritures. Et Paul n'a pas arrêté de le dire. À chaque fois qu'il écrivait aux chrétiens, il commence toujours ses lettres comme ça. Et on va prendre par exemple sa deuxième lettre aux Corinthiens. Chapitre 1, verset 1. Paul dit, Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et le frère Timothée, à l'église qui est à Corinthe, et à tous les saints qui sont dans toute l'Achaïe. C'est-à-dire, il voulait dire tous les disciples. Et quand il écrit aux Éphésiens, même chose, Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ. Aux Philippiens, pareil. Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ, à tous les saints en Jésus-Christ qui sont à Philippe. Aux Colossiens, Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et le frère Timothée, aux saints et fidèles frères en Christ qui sont à Colosse. Et l'auteur de la lettre aux Hébreux, dans cette lettre, au chapitre 3, verset 1, lui aussi, il s'adresse donc aux chrétiens en disant « Frères saints, qui avait part à la vocation céleste. » Ça, c'est la définition biblique. Du moment où j'ai choisi Jésus comme Seigneur et Sauveur, que je suis né d'en haut, je deviens un saint. Ça, c'est la définition de la Bible. Donc, ce n'est pas une question de canonisation. Moi, j'en suis tellement convaincu que je n'hésite pas à le dire, au point que, au travail, certains m'appellent Saint Éric. Ou le saint. Enfin, je vous avais donné quelques surnoms qu'on me donnait au travail, c'est ces deux-là aussi, pour la simple et bonne raison que j'ai dit clairement à mes collègues que j'étais saint. Évidemment, ils ont été choqués en disant, mais tu n'as pas les chevilles qui enflent un peu? Quelle présomption! Et je leur ai expliqué la vision biblique. J'ai dit, je suis saint parce que je suis disciple de Jésus-Christ. En fait, c'était une occasion aussi pour moi pour leur parler de l'Évangile. Mais je leur dis clairement que je suis saint. Et jusqu'à maintenant, certains m'appellent le saint ou saint Éric. Alors, et vous, je vous pose la question, est-ce que vous êtes saint? C'est à chacun de voir. Moi, je n'hésite pas à le dire parce que j'en suis convaincu. Alors, parfois, ce qui fait que les gens ont du mal à se dire saint, c'est parce qu'avec la définition que j'ai donnée au début, la définition du monde de quelqu'un qui est parfait, c'est ça la sainteté, la perfection. Alors, certains se disent, oh non, je ne suis pas saint parce que je pêche encore.
Oui, voilà.
Alors, en fait, c'est à cette question que j'aimerais répondre ce matin. En tant que saint, pourquoi je pêche encore alors que je suis saint? Nous allons tout reprendre à la base, au tout début. Enfin, nous avons une nature qu'on appelle la nature adamique, que nous détenons d'Adam. Cette nature, elle est pécheresse. Elle est pécheresse et dès notre naissance, nous avons cette nature. Du fait que nous naissons d'Adam, nous descendons d'Adam, donc nous avons sa nature, cette nature adamique qui est pécheresse. Et David écrit dans le psaume 51, verset 7, « Je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. » Dès la naissance, nous sommes pécheurs, parce que nous avons cette nature adamique. Et Jésus dira dans Jean chapitre 3, verset 6, « Ce qui est né de la chair est chair. » La chair, en fait, c'est un autre nom de la nature adamique. On l'appelle aussi la chair. Et il faut dire que la chair, d'après la Bible, ne peut pas se soumettre à Dieu. La chair, c'est Paul qui l'écrit aux Romains, dans sa lettre au chapitre 8, verset 7. « Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. » La chair ne peut pas se soumettre à la loi de Dieu. C'est impossible, parce qu'aucun bien n'habite dans la chair. Cette nature adamique n'a aucun bien en elle. Et Paul nous le dit dans, vous connaissez sans doute ce passage de Romains chapitre 7, versets 18 à 20. Et là, ce témoignage que nous donne Paul, « Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire en ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. » Car je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Voilà encore un autre nom de la nature adamique, le péché. En fait, cette nature adamique a plusieurs noms dans la Bible. On l'appelle donc aussi le péché. On l'appelle aussi le vieil homme. Parfois, Paul l'appelle le vieil homme qui est en nous. Romains chapitre 6, verset 6. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui afin que le corps du péché fût détruit pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Mais là, se pose encore la question, si mon vieil homme a été crucifié, pourquoi je pêche encore? On va y répondre tout à l'heure. Donc, je résume un petit peu toutes les définitions que la Bible donne, ou comment la Bible qualifie la nature adamique. C'est le vieil homme, c'est le péché, c'est la chair. Mais j'aimerais quand même faire une remarque, c'est que la chair n'est pas forcément le péché. La chair peut parfois juste désigner le corps physique dans la Bible. C'est-à-dire que si vous prenez par exemple la première lettre de Paul au Timothée, chapitre 3, verset 16, il écrit « Et sans contredit, le mystère de la piété est grand. Celui qui a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux gentils, cru dans le monde, élevé dans la gloire. » De qui parle-t-il? De Jésus. D'accord, qui a été manifesté en chair, mais il ne voulait pas dire qu'il a été manifesté dans le péché. Ça, c'est, il a été manifesté dans la chair, dans le corps physique. C'est ce qu'il voulait dire. Parce qu'il n'y a pas de péché en Christ. La Bible nous le dit très bien. 1 Jean chapitre 3, verset 5. « Or, vous le savez, Jésus a paru pour ôter les péchés. Il n'y a point en lui de péché. » Il n'y a aucun péché en Christ. Voilà. Donc, mais justement, c'est cette nature du Christ que nous acquérons au moment de la conversion. On acquiert en fait la nature, une nouvelle nature. Et c'est ça qui nous donne, qui fait de nous en fait de nouvelles créatures, dit la Bible. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Parce qu'en fait, il a acquis une nouvelle nature, qui est en fait la conséquence de la naissance d'en haut. Alors, en fait, c'est une œuvre que Dieu fait. Dieu va régénérer l'esprit complètement au moment où on se convertit. C'est une œuvre de Dieu. C'est une œuvre créatrice de Dieu. Dieu crée une nature nouvelle dans la personne qui se convertit. Et en fait, la personne acquiert une nature divine, carrément. On acquiert une nature divine. Et la nature divine, c'est aussi un autre nom de la nouvelle nature. L'apôtre Pierre, dans sa deuxième lettre, nous écrit ceci au chapitre 1, versets 3 et 4. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine. C'est ça, en fait, on devient participant de la nature divine. On acquiert une nature divine en nous. Voilà, donc, on a ces noms-là, on a aussi cette nouvelle nature, s'appelle aussi l'homme intérieur, dans la Bible. Romains chapitre 7, verset 22. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Voilà, on trouve aussi ce vocabulaire, où on l'appelle aussi l'homme nouveau, cette nouvelle nature qu'on acquiert. C'est Paul qui l'écrit aux Éphésiens, au chapitre 4, verset 24. Revêtir, il nous invite à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Voilà, donc on a ces vocabulaires que je rappelle pour la nouvelle nature qu'on acquiert. On l'appelle aussi l'homme nouveau, l'homme intérieur ou la nature divine. Alors, cette nature, puisqu'elle est divine, elle ne peut pécher. C'est ce que nous rappelle l'apôtre Jean dans sa première lettre, au chapitre 3, verset 9. « Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui. Il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. » Mais alors, pourquoi est-ce que je pêche encore si je suis né de Dieu? Je pêche, et la Bible le dit d'ailleurs, que le saint pêche. C'est toujours l'apôtre Jean, un peu plus haut dans sa lettre, au chapitre 1. Je vais vous lire les versets 8 jusqu'au deuxième verset du chapitre 2. Jean dit, « Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes, et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous le faisons menteur, et sa parole n'est point en nous. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le Juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, et non seulement pour les nôtres, mais pour ceux du monde entier. Donc la Bible confirme bien que le saint pêche. Et on remarque ici en fait qu'il est question du péché et des péchés. Il y a une petite différence, c'est que le péché en fait c'est notre nature, et les péchés ce sont les manifestations de notre nature. Quand on parle du péché dans la Bible, c'est une nature. On a le péché en nous, et ça nous amène à faire des péchés, à commettre des péchés. Voilà. Alors donc pourquoi est-ce que je pêche encore alors que je suis saint? Et c'est la question à laquelle j'aimerais répondre ce matin. C'est tout simplement parce que en nous, nous avons à la fois la nature adamique et la nature divine. Les deux cohabitent en nous. Nous avons deux natures en nous. D'ailleurs, cette prédication, comme titre, je l'appellerai « Les deux natures du saint ». Le saint a deux natures en même temps. Et en plus, ces deux natures, étant opposées, sont en lutte permanente. Et c'est ce que nous dit Paul en écrivant aux Galates, chapitre 5, verset 17. Il écrit « Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Et ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. » Donc ces deux natures sont contraires et s'opposent et sont en lutte en permanence. Alors quelqu'un pourra dire « Mais à ce moment-là, je peux pécher tranquillement, puisque j'ai une excuse, j'ai les deux natures. » Ben oui, j'ai les deux natures, j'ai la nature pécheresse aussi, donc je peux pécher. Ben non. Non, pour la simple et bonne raison que ce n'est pas parce que je vais m'efforcer de ne pas pécher pour ne pas perdre mon salut. Là n'est pas la question. D'ailleurs, on aura la prochaine fois un message sur la perte du salut. Mais en fait, le saint, quand il s'efforce de ne pas pécher, c'est surtout parce qu'il est en souffrance. À chaque fois qu'un saint pêche, il souffre. Il perd la paix avec son père. Et cette souffrance, on fait tout pour l'éviter. Donc on fait tout pour ne pas pécher. Parce qu'à chaque fois que je pêche, le Saint-Esprit qui est en moi me convainc de pécher. Et je souffre. Et voilà, et donc je n'ai pas la paix, et donc je n'ai pas envie de pécher tout le temps et être dans une situation pareille. Et donc je fais tout, je lutte, et là c'est une lutte. Parce que je retombe et je souffre. Et donc je demande le secours du Seigneur, je ne veux plus vivre une telle souffrance. Et on vit en fait un combat intérieur qui est difficile et douloureux. C'est celui qui ne souffre pas en péchant, il n'est pas sauvé. Mais celui qui est sauvé, il souffre. Parce qu'il est en combat. Tout le temps, il est en combat. À chaque fois qu'il attriste le cœur de son Père. Et il crucifie à nouveau le Christ. C'est ce qu'il ressent. Et donc, il n'a pas envie de continuer à vivre ainsi. Et heureusement que la Bible nous fait une promesse. Elle nous dit, c'est vrai, c'est difficile ce combat, mais un jour, vous serez libérés. Il y aura une libération par rapport au vieil homme, par rapport au péché, par rapport à la chair. Tout cela est lié au corps, à notre corps physique. Et cette libération aura lieu au moment de la rédemption du corps, dont parle l'apôtre Paul. Dans Romains chapitre 8, verset 23, il écrit, « Nous aussi, qui avons les prémices de l'Esprit, nous aussi nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. » À quel moment aura lieu cette rédemption? Oui? Qui sait à quel moment? Parce que la Bible en parle. La rédemption de notre corps aura lieu à quel moment? Pardon? À la résurrection, exactement. Et je vais vous lire ça, 1 Corinthiens chapitre 15, versets 42-43. « Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible, il ressuscite incorruptible. Il est semé méprisable, il ressuscite glorieux. Il est semé infirme, il ressuscite plein de force. » C'est à ce moment-là, en fait, notre corps va être transformé en corps glorieux. Et ce corps glorieux ne pêche pas. Et c'est au moment de la résurrection. Et je vous invite, si vous voulez en savoir un peu plus, à lire tout le chapitre 15 de 1 Corinthiens. Et vraiment, Paul parle un peu plus largement de ce sujet. Mais en attendant, qu'est-ce que je vais faire? Puisque je continue quand même à souffrir. Quand je pêche et que je retombe, cette vieille nature est toujours attachée à moi, attachée à mon corps. Je ne peux pas me débarrasser de mon corps. Et cette nature est dans mon corps. Qu'est-ce que je peux faire? Alors, pour en parler, j'aimerais vous donner une illustration. J'ai découvert à la Martinique un écosystème très particulier qu'on appelle la mangrove. Je ne sais pas si vous connaissez ça. En fait, près de la mer, on voit un écosystème alimenté par l'eau de mer dans lequel poussent des plantes. Alors moi, j'ai été surpris de voir des plantes pousser dans la mer, c'est-à-dire qui supporte l'eau salée. En général, quand on arrose une plante avec de l'eau salée, elle dépérit. Et là, je vois un écosystème où notamment le palétuvier qui pousse dans l'eau de mer. Alors, en fait, pourquoi je prends cet exemple-là? Imaginez que vous preniez un pot dans lequel vous plantez une plante d'eau de mer et une plante d'eau douce. Suivant la façon dont vous arrosez le pot, vous allez avoir une plante qui va dépérir, l'autre qui va s'affermir. Dans le même pot, si j'arrose avec de l'eau de mer, la plante d'eau douce va dépérir et la plante d'eau de mer va croître. Alors que si j'arrose avec de l'eau douce, la plante d'eau de mer va dépérir et la plante d'eau douce va croître. Et c'est exactement ce qui nous arrive à nous. Nous avons intérêt, puisque notre corps, qui est le pot dont je parle, qui contient la nature divine et la nature pécheresse, ça dépend comment je les alimente. Soit j'alimente ma nature pécheresse et elle croît, ou j'alimente plutôt ma nature divine. Et voici ce que dit Paul aux Romains, dans sa lettre au chapitre 13, verset 14. Il dit « Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. » C'est que notre chair, nous ne devons pas satisfaire ses convoitises. Nous devons en fait la faire mourir, notre chair. Nous devons la faire dépérir. Et ne pas nourrir en fait nous ne devons pas nourrir notre nature pécheresse. Donc ça dépend de ce que nous en avons parlé au moment quand on a parlé de la sanctification. Nous devons faire attention à ce que nous voyons avec nos yeux, ce que nous regardons, ce que nous écoutons, ce que nous lisons, ce que nous écoutons, ce que nous pensons. Tout ça alimente nos deux natures. Voici ce que Paul dit toujours aux Colossiens. Chapitre 3, versets 1 et 2. Il dit, « Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où est assis Christ à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses en haut et non à celles qui sont sur la terre. Ça veut dire que quelque part, nous pouvons nous nourrir de choses célestes ou de choses terrestres. Si je me nourris de choses terrestres, ben, je vais faire croître mon vieil homme. Mais si je me nourris de choses célestes, je vais faire croître ma nature divine. Donc ça dépend de comment je fortifie les deux natures. J'ai intérêt à fortifier l'homme intérieur et à affaiblir le vieil homme. C'est à cela que Dieu nous appelle. Et ça veut dire que nous devons prendre des fortifiants, si vous voulez, pour l'homme intérieur. Alors, j'aimerais vous donner quelques exemples. Le premier fortifiant, c'est la prière. Dans Matthieu chapitre 26, verset 41, Jésus invite ses apôtres. Il dit, voilà, « Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Donc, c'est pour ça que Jésus dit, « Priez, priez. » Et j'aime bien un des versets les plus courts de la Bible, c'est 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 17. Trois mots, priez sans cesse. Et dans d'autres langues, c'est juste deux mots. C'est vraiment un verset qui est très court, et il m'interpelle parce qu'il nous demande de faire quelque chose qui est long dans le temps, prier sans cesse, et le verset est très court. Voilà, en fait, nous sommes invités à prier sans cesse. Plus je prie, plus je vais nourrir mon homme intérieur et je vais affaiblir mon vieil homme. Et ces prières peuvent être aussi chantées. Et ça m'amène au deuxième fortifiant, qui est la louange que nous avons faite ce matin. Les louanges, ce sont des prières chantées. Donc, la louange aussi est un fortifiant de notre homme intérieur. Et Paul écrit aux Éphésiens, au chapitre 5, verset 19, « Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. » On nous invite à cela, parce que ça va fortifier notre homme intérieur et faire mourir le vieil homme. Et d'ailleurs, c'est pour ça que, pardon, quand j'ai l'occasion de présider le culte, j'aime bien distribuer les paroles des chants pour que chacun retourne chez soi avec les paroles et continue à chanter. Parce que parfois, on peut ne pas chanter parce qu'on n'a pas les paroles. Mais c'est pour ça que j'aime bien que chacun puisse avoir les paroles et continuer à chanter régulièrement pour alimenter cet homme intérieur. Il y a un troisième fortifiant, c'est la parole de Dieu. Nous le connaissons tous. Dans le psaume 1, verset 2, il est écrit « Heureux l'homme qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. » La méditation de la parole de Dieu, ça nous fortifie, ça fortifie l'homme intérieur. En fait, nous sommes appelés à nous nourrir de la parole de Dieu. Ça va nourrir notre âme, ça va nourrir notre homme intérieur. Et c'est aussi pour ça, tout à l'heure, je vous ai parlé des références que j'aime bien donner à qui veut à la fin des prédications, pour que chacun puisse encore continuer à la maison à retravailler les textes, à se nourrir de la parole de Dieu. C'est vraiment quelque chose qui nous fortifie. Donc, ce sont des choses qui sont concrètes. La prière, la louange, la méditation de la parole de Dieu, ce sont des choses qui sont concrètes et qui vont nous aider, en fait, à vaincre, à avoir la victoire sur le vieil homme, sur la chair, sur le péché. C'est comme ça que je travaille, je vais faire grandir mon homme intérieur. Bref, il faut que j'aie de l'intimité avec Dieu. Plus je développe de l'intimité avec Dieu, plus j'aurai la force et la force de fuir le péché. Et je vais tomber de moins en moins dans le péché parce que la nature divine grandit en moi. Et je ne peux plus pécher. Cette nature ne veut pas pécher. Donc c'est ça qui va tout le temps ressurgir. Quand je suis face au péché, c'est la nature de Dieu qui va ressurgir. Dans le message de la sanctification, je disais que la sanctification, ce n'est pas la prière, ce n'est pas la louange, ce n'est pas la méditation de la parole de Dieu. Et que c'est plutôt la conduite, c'est notre conduite qui est la sanctification. En revanche, tout ce que je viens de dire, c'est ça qui va me permettre d'avoir une vie sanctifiée. C'est un peu comme un carburant pour un moteur. Le moteur qui tourne, c'est la sanctification. Mais ce qui permet au moteur de tourner, c'est le carburant, c'est-à-dire tout ce que je viens de citer maintenant. Donc il y a toutes ces choses-là qui vont me permettre. Ce que les gens voient, ce qui est visible, c'est le moteur qui tourne. Et le carburant, il est à l'intérieur. Donc ce que nous faisons pour nous sanctifier, les gens ne le voient pas. Par contre, notre vie devant tout le monde, ça se voit. C'est cette vie qui doit être sainte. C'est ça la sanctification. Et c'est un peu comme la plante. La plante, on la voit, mais l'eau qu'il y a dans le pot, on ne voit pas forcément l'eau. Voilà, donc tout ce que nous faisons pour nous sanctifier, Et c'est quelque part, c'est discret, c'est ce que nous faisons chez nous dans la prière, la méditation de la parole de Dieu. Et c'est ça qui nous permet vraiment de grandir en termes, enfin, comme enfant de Dieu, notre nature divine va grandir, et là on aura la victoire sur le péché. Donc pour conclure, et pour répondre à la question de départ, pourquoi je pêche encore, c'est parce que j'ai deux natures qui cohabitent en moi. Parce que certains pensent que dès qu'on est sauvé, on n'a que la nature divine. Après, ils s'étonnent qu'ils pêchent. Parce qu'on a toujours les deux natures. Il n'y a que la nature adamique qui peut pécher. La nature divine ne peut pas pécher. Donc c'est elle qui pêche. Et donc, notre but, c'est d'affaiblir ce vieil homme, cette nature pécheresse adamique. Donc pour ça, il nous faut toujours plus d'intimité avec Dieu. À travers, comme je l'ai dit, la prière, la louange, la méditation de la parole de Dieu. Et donc pour avoir la victoire sur ce vieil homme, finalement, sur la chair, sur le péché, je dois me nourrir des choses d'en haut. C'est ça que dit Paul. Les choses d'en haut, c'est ce que je viens de citer. Et donc, j'aimerais terminer en vous rappelant ce verset comme dernière exhortation, les versets 1 et 2 de Colossiens 3, et je m'arrêterai là. Que ce soit vraiment un encouragement pour chacun de nous. Paul nous écrit, « Si vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut. » Et non celles qui sont, enfin, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Que Dieu vous bénisse. Amen.